Le 18 juin 2018 à 19h56, le service de police de Boulder a reçu un appel dramatique au 911. L'appelant était un garçon de 11 ans nommé Michael Jones, qui déclarait qu'il venait de découvrir le corps sans vie de sa mère sur le sol de la buanderie. En arrière-plan, on entend un homme crier « Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. » La police a rapidement dépêché l'adjoint Mike Perry sur les lieux. Les images que vous regardez maintenant ont été enregistrées par la caméra corporelle de Mike Perry. En quelques minutes, il est arrivé sur le terrain du parc de maison mobile Ponder Rosa au 4475 North Broadway. Bonjour. La personne que vous voyez agenouillée sur le sol est Scott Jones, 47 ans. La femme allongée sur le sol juste hors de notre champ de vision est l'épouse de Scott, Deborah De Pinto. Le couple était marié depuis plus de 10 ans et élevait ses deux enfants, un fils de 11 ans et une fille de 13 ans. Malheureusement, leur fils se trouve également dans la pièce avec eux.
S'il vous plaît, aidez-moi.
L'avez-vous trouvé ici?
Je ne sais pas.
Vous devez aider ma femme. Vous devez aider.
Ils ont toute ma vie, mec. S'il vous plaît, aidez-la, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Respirez profondément. D'accord, point. Les meilleures personnes sur lesquelles on puisse travailler s'occupent d'elle. D'accord? Nous avons des ambulanciers sur elle. Très bien.
Oh mon Dieu.
Voyons voir. Voyons ce qui se passe. L'adjoint.
Perry a immédiatement pratiqué la RCR et quelques minutes plus tard, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Pendant ce temps, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer le comportement étrange de Scott. Lorsqu'ils ont demandé à Scott ce qui s'était passé exactement, Scott a déclaré que Deborah se plaignait que la buanderie était excessivement chaude et qu'elle avait du mal à respirer avant de s'effondrer soudainement. Il a ensuite expliqué qu'il pensait que Deborah avait pu faire une crise cardiaque à cause de son poids ou d'un autre problème médical.
Elle pèse environ 100 kilos. Je lui ai dit, mec, il faut que tu fasses attention.
Il passait de l'un à l'autre entre souligner à quel point elle comptait pour lui, détailler sa consommation de drogue à risque et son poids malsain.
On s'en occupe. Il faut qu'on te tienne la main ou quelque chose comme ça. Je sais, mais il s'occupe d'elle en ce moment. D'accord. Je ne sais pas. On en entend toujours parler. Ils fument cette fichue pipe qu'ils font chauffer et qu'ils mettent dans ce truc. Oh mon Dieu. C'est toute ma vie ici, mec. C'est toute ma vie. Oh mon Dieu. Des bulles. Oh mon Dieu.
Dans les situations où un parent vient de décéder, il est courant que le parent survivant réconforte son enfant. Cependant, dans ce cas particulier, Scott semblait quelque peu désengagé ou désintéressé par ses enfants, étant donné que son fils était toujours dans la pièce avec eux. Les policiers ont demandé où se trouvait sa fille. Il a répondu, « Je ne sais pas. »
« Où est votre ?»«
Je ne sais pas. » Deborah De Pinto a été rapidement chargée dans l'ambulance et emmenée d'urgence au centre d'urgence de Boulder peu après son arrivée à l'hôpital communautaire Boulder Health Foothills. Deborah a succombé à ses blessures. Bien qu'à ce stade, il n'y ait aucune indication claire d'acte criminel, les détectives ont demandé à Scott de les rejoindre au service de police en suivant la procédure habituelle. Le détective Don Dillard du bureau du shérif du comté de Boulder a été chargé de mener l'enquête et de mener l'entretien avec Scott. Scott s'en est tenu à son récit de l'événement qui s'est produit dans la buanderie ce soir-là. Selon lui, Deb avait du mal à respirer avant de s'effondrer brusquement. « Je ne sais pas, mec. Elle a fait comme ça. Elle a commencé à faire comme ça et tout. » Il a également expliqué que bien que Deborah et lui aient été séparés, ils avaient coparenté leurs deux enfants en toute amitié. Scott a parlé positivement de sa relation avec Deb, affirmant qu'ils n'avaient aucun problème et qu'ils travaillaient bien ensemble en tant que parents. Il répétait sans cesse qu'il aimait sa femme et qu'il n'avait absolument rien à voir avec sa mort. J'aime ma femme et elle m'aime, mec. Et je ne sais pas comment ça s'est passé comme ça aujourd'hui, mec. D'accord, quand elle est tombée. Ouais, elle était face contre terre. Elle est tombée. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans cette pièce qui... Pas question, mec. Pas question. Je veux dire, je sais que les accidents arrivent. Si vous vous disputez, est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui est allé trop loin? A-t-elle fait une crise cardiaque et est-elle morte? Oh, non, mec. L'interrogatoire a duré plusieurs heures et sans avoir reçu d'informations compromettantes, les détectives n'ont toujours pas pu inculper Scott. Épuisé et voulant être avec ses enfants, Scott a demandé la permission de rentrer chez lui. « Donc, je suis fatigué, je veux ramener mes enfants à la maison. » Et j'ai répondu à beaucoup de questions. J'ai été très coopératif. Quelques instants après que Scott ait quitté la salle d'interrogatoire, le bureau du shérif a reçu un appel qui a changé le cours de l'enquête. L'adjoint Mike Perry, qui était le premier policier à arriver sur les lieux, a reçu un appel téléphonique du directeur du parc de maison mobile de Ponderosa. L'appel concernait une vidéo que le directeur avait découverte sur l'une des caméras de surveillance. Le directeur du parc a rapidement téléchargé la vidéo sur un Google Drive partagé et a envoyé le lien au détective. J'ai mis en place un Google Drive. J'ai téléchargé la vidéo. Elle dure une heure, si vous en voulez plus. J'ai eu des frissons dans le dos. Je n'ai pas pu regarder plus. Les images auxquelles il fait référence ont en fait été obtenues grâce à une caméra cachée de fortune que le directeur avait placée à l'intérieur de la buanderie pour surprendre les gens en train de voler. Les détectives ont décidé d'installer un ordinateur afin de diffuser cet enregistrement à Scott. Ce que vous allez voir, ce sont les images de surveillance capturées à l'intérieur et à l'extérieur de la buanderie au moment où Deborah est décédée. Voici donc la vidéo dont nous parlions. Vers 18h50, une caméra de surveillance extérieure a filmé la fille se dirigeant vers la voiture tandis que Scott et Deb se dirigeaient de la caravane vers la buanderie commune du parc. À ce stade, il semble que les deux étaient déjà en train de se disputer sérieusement.
Je pensais que tu avais un peu de bon sens. Enfin, je pensais qu'il savait que tu emménageais là-bas. Il ne le sait pas.
C'est ce que j'avais hier soir. Qu'est-ce
que tu fais là-bas? J'en prends un. Sors d'ici. On se bat depuis une heure pour rien. J'en ai marre. On ne sera jamais ensemble.
Tu es tellement cruel. C'est tout ce que tu as? Cruel et méchant.
Tu me gênes.
Tiens. Peu importe. Éloigne-toi de moi. Ne me touche pas. Arrête. Tu ne peux plus me forcer à t'aimer. Sors d'ici. Où est la porte? Je suis coincé. Éloigne-toi de moi. Tu me fais me sentir mal. Éloigne-toi du magasin. L'enregistrement audio donne l'impression qu'il pourrait s'agir d'une altercation physique qui a duré environ 90 secondes. La confrontation se termine vers 19h, moment auquel l'audio se tait. Les détails de l'événement n'étaient toujours pas clairs. Cependant, l'enregistrement audio a capté un nouveau son. Cette fois, le bruit distinct d'un sèche-linge en arrière-plan. La respiration lourde de Scott était perceptible, ce qui suggère qu'il faisait probablement les 100 pas dans la pièce. Tandis que Scott regardait, sa réaction a révélé une ignorance totale de la présence d'une caméra dans la buanderie. Il a nié avec anxiété toute implication dans la buanderie, malgré les preuves vidéo indiquant clairement que quelque chose de terrible s'était produit à ce moment précis. Cela ne prouve rien et vous le savez. Cela nous montre que quelque chose s'est passé dans cette pièce. Que s'est-il passé pendant ce temps-là? L'horodatage de l'enregistrement vidéo a révélé que Scott était resté dans la buanderie à côté du corps de sa femme pendant environ 47 minutes avant d'être à nouveau vu par la caméra. Pendant tout ce temps, vous êtes toujours là avec elle. Que faites-vous? La regardez-vous? Essayez-vous de comprendre quoi faire ensuite? Aidez-moi. La vidéo montre ensuite un Scott visiblement bouleversé alors qu'il sort de la buanderie, passe devant la caméra en direction de la porte d'entrée, puis continue de faire les 100 pas, mal à l'aise. C'est à ce moment-là que Scott sort enfin de la pièce. Il a été filmé par une caméra extérieure alors qu'il se dirigeait vers le camping-car. Les images le suivent ensuite alors qu'il retourne à la buanderie, cette fois accompagné de leur fils de 11 ans, Michael.
La décision de Scott d'emmener son fils à la buanderie et de voir sa mère inconsciente semblait très inhabituelle pour un parent. D'après les images vidéo, Scott avait passé près d'une heure après son altercation avec Deb à attendre dans la buanderie. Il est courant que des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle de Scott s'élaborent délibérément un récit de l'incident. Le fait que Scott emmène son fils à la buanderie pourrait être interprété comme une façon pour lui d'utiliser son fils pour ajouter plus de crédibilité à son histoire.
«
Oh mon Dieu.
Scott a non seulement exposé Michael au corps de sa mère décédée, mais il est même allé jusqu'à persuader Michael d'appeler le 911. À 19h56, Michael a composé le 911 sur le téléphone de Scott. Lorsque le répartiteur lui a demandé de fournir plus de détails sur l'état de santé de sa mère, on l'a entendu dire « Maman est violette, elle est froide au toucher et a une ecchymose sur l'arête du nez ». Le répartiteur du 911 a ensuite demandé leur adresse, et Michael a alors tendu le téléphone à Scott. On peut entendre Scott crier « S'il vous plaît, aidez-moi ».
« S'il vous plaît, aidez-moi ». « Ce n'est pas moi. S'il vous plaît, aidez-moi ».
Alors que les services d'urgence se sont précipités sur les lieux, la fille de Deb, âgée de 13 ans, qui avait été aperçue en train de marcher vers la voiture de Deb plus tôt, était toujours assise à l'intérieur du véhicule. D'après sa déclaration, elle avait reçu un SMS lui demandant où elle était et lui disant que sa mère était morte, mais elle n'a pas répondu par peur. Il est apparu plus tard que son frère Michael avait utilisé le téléphone de Scott pour lui envoyer le message. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre que le texto soit authentique, mais qu'elle avait quand même peur. Elle a également exprimé des inquiétudes quant à sa propre sécurité, ne sachant pas si elle serait la prochaine. Scott a continué de nier tout acte répréhensible de sa part. Mais avec de nouvelles preuves filmées par la caméra, l'attitude affectueuse de Scott envers sa femme a commencé à prendre une tournure intéressante. Et, où allons-nous maintenant, mec ? J'ai besoin d'un avocat, n'est-ce pas ?
C'est à ce stade de l'interrogatoire que les agents sont entrés dans la pièce et ont dit à Scott qu'il était arrêté pour le meurtre de sa femme. Faites-moi
une faveur, levez-vous. Alors que les menottes de Scott s'enclenchent, il dit au détective, « Rien ne presse. Voulez-vous continuer à lui parler ? Parce que si vous le faites, je dois vous lire. Où allons-nous ? Parlons de nos options. Discutons de nos options. »
C'est là que le rythme de l'interrogatoire change complètement. Au lieu de nier toute implication, Scott est désormais disposé à coopérer avec le bureau du shérif.
« Mais je n'ai pas réfléchi. Je n'ai réfléchi à rien. J'ai juste réagi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. » J'ai juste réagi. Je ne sais pas, mec. C'est dingue. Alors que l'interrogatoire s'intensifie, Scott commence à se remémorer les moments qui ont précédé l'incident dans la buanderie, mais essaie également de faire comprendre qu'il n'y avait pas de préméditation. Scott déclare également que Deb était une personne cruelle, qu'elle le poussait à bout et qu'elle le faisait craquer. Il est possible que Scott dise cela dans l'espoir que le tribunal considère cela comme un crime commis avec malveillance, mais sans préméditation. Si un accusé est reconnu coupable d'un crime impliquant un meurtre commis avec malveillance mais sans préméditation, la condamnation entraîne une peine moins lourde que s'il avait été commis avec préméditation.
Où suis-je ?
Je ne sais pas. Tu penses que je ne me défonce pas ? Tu ne penses pas que je me sens mal ? Je sais que tu l'étais. Oh, mec, ce n'était pas suffisant. Je prends les enfants. Tu ne prendras pas mes enfants. Tu me menaces et moi, mec. Je n'arrivais pas à arrêter d'être un monstre. Tu n'arrivais pas à arrêter d'être cruel, mec. Tu ne sais pas ce qu'elle m'a fait. Tu ne sais pas la cruauté qu'elle a commise, mec. Ils ont observé un changement dans la façon dont Scott parlait de sa femme. Au début, il l'avait décrite comme l'amour de sa vie, mais ce sentiment a changé lorsqu'il a commencé à la dépeindre comme une personne mauvaise, suggérant qu'elle avait provoqué son manque de jugement momentané. Il devient également clair que Scott a peut-être tenté d'établir une défense de folie en imputant ses actes à la détresse mentale causée par le traitement cruel de Deborah, probablement dans le but de s'absoudre de toute responsabilité. Je crois que ça rend un homme temporairement fou pendant une minute, mec. Quand on y pense, on sait qu'on ne connaît pas les problèmes. On ne connaît pas la douleur. On ne sait pas ce que j'ai enduré. Vous ne savez pas ce que cette femme m'a fait subir. Vous ne savez pas ce qu'elle a fait à mon fils. Vous savez ?
Ce changement de comportement et d'histoire reflète une tendance commune chez les individus à justifier leurs actes et à construire une histoire que les autres percevront comme crédible. Un cas assez connu qui contient un autre exemple de cela est celui de Chris Watt. Quelques heures avant ce moment, Chris avait étranglé sa femme, puis étouffé ses deux jeunes filles avant de se débarrasser de leur corps sur un site pétrolier. Les détectives ne savent pas que Chris a fait cela parce qu'il était tombé amoureux d'une nouvelle femme et qu'il avait besoin que sa famille soit hors de cause avant que la nouvelle relation ne puisse s'épanouir. Après avoir échoué au détecteur de mensonges, Chris s'est senti pris au piège des preuves contre lui. Et lorsque les détectives lui ont donné une autre séquence d'événements, il a sauté sur l'occasion et a avoué.
Je n'ai rien fait, était-ce ?
Un accident ?
Il n'y a pas eu d'accident, je ne sais pas. S'il y a eu un accident dans la maison, je n'étais pas là pour le voir. C'est grave si c'est un accident, parce qu'on peut s'en accommoder. Chris, non. C'est peut-être ce qui s'est passé.
Non, je n'ai pas appelé ça un accident. Je n'ai rien fait à ma femme et à mes enfants.
Ce sont tes petites filles. Et tu n'as pas versé une larme parce qu'elles n'étaient pas là. On sait que quelque chose leur est arrivé à toutes les trois, mais je veux savoir, est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ces petites filles en premier que tu as dû prendre en main et gérer ?
Tu as dû tout nettoyer pour nous, Shan.
Chris, tu dois nous le dire. Il est arrivé quelque chose à ces petites filles. J'ai l'impression que tu as tout nettoyé pour elles. J'ai l'impression que c'est le genre de mec que tu es.
Tu ne leur as pas fait à toutes les trois ? Comme si je n'avais rien fait parce que rien. Qu'est-ce ?
Qu'elle leur a fait ? Dis-nous, Chris. Les filles sont folles.
Je peux parler à mon père ou quelque chose comme ça ? Absolument, viens. Tu veux l'amener ici ? Non. J'ai juste besoin de parler à mon père si je traversais le pays en avion. Salut GR, qu'est-ce que tu en penses ? Si on amenait ton père ici, pourrais-tu lui dire ce qui s'est passé ? Ne sors pas. D'accord. Tu as besoin de quelques minutes pour ça ? D'accord. J'ai entendu un peu de vacarme à l'étage, mais je n'y ai pas prêté attention. Est-ce qu'elle l'a tué ? Ils sont bleus. Elle et moi, j'ai oublié le champagne. Comme je l'ai déjà dit, cet aveu était complètement inventé. Il a admis plus tard que sa femme Shannon n'avait pas tué ses enfants et qu'il avait pété les plombs avant de commettre un familicide. Bref, revenons au sujet principal de cette vidéo. Scott venait d'admettre qu'il avait tué Deborah, mais il s'est empressé de créer le récit selon lequel Deborah était une épouse extrêmement violente, ce qui lui a fait perdre la tête et l'a fait assassiner. Suite à ses aveux, Scott Jones a été officiellement arrêté et inculpé du meurtre de Deborah De Pinto. Scott n'a pas conclu d'accord de plaidoyer et a été placé en détention sans caution. Le rapport d'autopsie de Deborah a confirmé plus tard que la cause du décès était la strangulation. D'après les preuves présentées, il semble que les actes de Scott Jones aient été délibérés, car il aurait pu prendre d'autres mesures pour empêcher sa mort. Il n'a montré aucune volonté de s'arrêter, et les images vidéo indiquent qu'il avait eu tout le temps d'appeler à l'aide et de contacter le 911. Après avoir été escorté jusqu'à sa cellule, Scott semblait dépourvu de tout remords pour ses actes. Une différence frappante par rapport à son comportement lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois au parc à roulotte. Il faut que tu le dises à ma femme. Il faut que tu aides ma femme. Ils ont toute ma vie. Mec, s'il te plaît, aide-la, s'il te plaît. Oh mon Dieu, les détectives pensaient que ce changement brusque de comportement pourrait remettre en cause son affirmation selon laquelle l'acte n'était pas prémédité. Après l'arrestation de Scott, le procureur de district Adam Kendall a commencé à monter un dossier contre Scott. Pour établir des bases solides, Kendall a contacté les amis et la famille de Deborah De Pinto. Son objectif était de mieux comprendre le caractère de Deborah et la nature de sa relation avec Scott. Des proches du couple ont décrit Scott comme étant excessivement contrôlant et émotionnellement violent envers Deb. Ce comportement se serait aggravé au cours de la dernière année de la relation, Scott la menaçant à plusieurs reprises. Malgré le comportement de Scott, il n'y avait aucun signe de violence physique. Dans les cas de violence domestique, on observe fréquemment que l'agresseur fait preuve initialement d'agressivité verbale, qui peut dégénérer en violence physique au fil du temps. Le procès de Scott a débuté en décembre 2019. Au cours du procès, l'accusation a fait valoir que le meurtre était prémédité et délibéré. Elle a également déposé une requête fondée sur un examen approfondi de tous les éléments de preuve selon laquelle Scott devrait être officiellement inculpé de meurtre au premier degré. La défense, quant à elle, a affirmé que les actes de Scott étaient précipités, impulsifs et imprudents, et ne devraient donc pas être qualifiés de meurtre au premier degré. Les amis et connaissances du couple ont été invités par le procureur à partager leur témoignage afin de démontrer que les actes de Scott étaient prémédités plutôt que impulsifs. Mark Rose, un ami du couple, a témoigné que lors d'une conversation avec Scott en 2017, Scott avait parlé du départ de Deborah du mariage. Mark a précisé que bien que Scott n'ait jamais directement exprimé l'intention de faire du mal à Deborah, l'intention lui était claire d'après l'intonation, le ton et le langage corporel de Jones. Mark a déclaré que ce dont il parlait était clair. Une autre amie, Heather Pelish, a témoigné que Scott lui avait dit « Je vais lui donner un coup sur la tête et la mettre en terre. » En parlant de Deborah. Un autre ami, Ryan Warley, a déclaré qu'environ une semaine avant la mort de Deborah, il avait entendu Scott dire qu'il avait des amis qui lui devaient des faveurs et qui pouvaient la faire sortir. Non seulement ces témoignages étaient accablants, mais le médecin légiste, le docteur Daniel Langenfelter, qui a pratiqué l'autopsie de Deborah, est également monté à la barre pour témoigner sur tous les détails de l'autopsie de Deborah. Il a déclaré qu'il avait été déterminé que Deborah était décédée des suites de ce que l'on appelle une asphyxie homicide, un terme médical désignant une strangulation avec un possible élément d'étouffement. Il a conclu son analyse en déclarant qu'il ne pouvait pas totalement exclure la possibilité qu'un élément d'étouffement se soit produit. Les détails complets du rapport d'autopsie de Deborah étaient en fait si horribles qu'un des jurés s'est évanoui au tribunal. Le 20 décembre 2019, Scott Jones a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Deborah DePinto. Il a été condamné à 48 ans de prison au pénitencier de l'État du Colorado. Il a également été condamné à une année supplémentaire de prison pour maltraitance d'enfant pour avoir emmené son fils de 11 ans, Michael, voir le cadavre de sa mère.